foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Le Sage.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Foi et Turbulence. Au microphone, c'est Francine Robert de l'Institut de Pastoral. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Mario Mayou, qui est un professeur invité depuis plusieurs années à l'Institut de Pastoral. Je lui ai demandé de nous parler de la spiritualité des adolescents. Mario a travaillé à l'époque avec Jacques Grandmaison dans le grand projet de recherche-action dans le volet de l'enquête sur les adolescents et les jeunes adultes. Il a travaillé aussi en paroisse avec des jeunes et il fait actuellement du coaching dans divers domaines, dont, entre autres, de l'accompagnement de parents d'adolescents. Les adolescents, une génération mystérieuse aux yeux de presque toutes les autres générations. Les plus jeunes ne comprennent pas leurs grands frères, leurs grandes sœurs, et lorsqu'on est adulte, quel que soit notre âge, on a tendance à oublier les hauts et les bas de cette difficile période qu'a été notre adolescence. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux adolescents au plan de la foi, au plan de la spiritualité? Quelles sont les attitudes qui ont des chances de fonctionner avec eux? Ce sont ces questions que j'ai posées à Monsieur Mario Mayou, que je reçois pour vous dans un instant. Mario Mayou, bonjour et bienvenue à cette émission.
Bonjour, merci.
Peut-être que pour réfléchir sur la question des ados et de la foi ou de la religion, on devrait d'abord se demander, mais qui sont les ados aujourd'hui? Comment ils vivent? Comment ils pensent peut-être?
Oui, question essentielle à aborder. Lorsqu'on veut s'approcher des ados et lorsqu'on veut que la relation soit des plus fluides, parce qu'il y a différents types de relations, mais si on la veut les plus harmonieuses, il faut absolument savoir à qui je m'adresse, de qui je suis en train de me faire proche. Si je veux être capable de me faire proche de l'autre, qu'on appelle adolescent aujourd'hui entre nous, là, je dois savoir de l'intérieur qui ils sont. Parce que sinon, si je demeure de l'extérieur, je vais porter des jugements, gros comme le bras, et là, il y a des escalades d'incompréhension qui vont s'installer, et on ne peut plus se rejoindre. Donc, si on regardait quelques-uns, parce que on pourrait s'en reparler longtemps, même pendant un cours de 45 ans.
Oui, hein? Puis on sait que les généralisations, ça demande toujours plus de nuances que ce qu'on peut mettre.
C'est ça. Alors, les adolescents d'aujourd'hui, premier constat, ils sont pas tout à fait différents des adolescents d'hier. D'abord, ils sont en train de vivre ce que moi j'appelle des détachements. Premier détachement, ça a l'air gros, mais c'est grave en tout cas. Détachement d'avec mon corps. Hein? J'allais dire, ben là, exagère pas. Il y a quelque chose de grave, une game qui se joue là. Le corps que j'avais, c'est pas juste des os et de la viande, c'est pas juste un moyen de locomotion, c'est ce que je suis. Ma façon d'entrer en relation avec ce que je suis, c'est à travers mes sens, avec mon corps. Et là, tout à coup, il pousse, il grossit, il grandit, il y a des poils, il y a des... Puis là, on dit ça hein, parfois, regarde un adolescent, il sait pas comment se mettre les bras, ça, c'est pas élégant.
Oui,
ça
il y a une maladresse.
Tout ouais. À fait. Alors là, ils vont passer des heures devant le miroir, au grand désespoir des parents, parce qu'ils ont juste une salle de bain, puis on dit, sors de là, on a besoin d'y entrer. Mais c'est très concret. C'est ça, c'est de dire, hey, qu'est-ce que je deviens? La question de l'image. Elle est super importante à tous les âges, mais à l'adolescence, mon corps prend des proportions, bon, je suis un petit peu trop grosse ici, le garçon aussi, bon, etc. Donc, il y a un détachement avec ce corps, ce que je suis. Je sais le corps que je laisse, mais je ne sais pas le corps que je deviens.
Le corps comme un étranger à moi-même,
ah,
un
oui,
petit peu.
Oui, donc un détachement, là, c'est très insécurisant, ça. Et ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est important de le dire. Ça prend une proportion plus importante à cause de la place de l'image aujourd'hui, qui n'était pas le cas autrefois. On sait, on regarde les réclames publicitaires, tout ce qui se fait autour de l'image, et là, je ne parle pas que des filles. Les garçons aussi.
Oui. Hein,
les marques de sous-vêtements qui doivent apparaître, la casquette nouvelle oui. marque, etc. Donc, l'image, c'est un phénomène important, encore plus aujourd'hui que ça ne l'était. Donc, ce détachement-là, pour moi, même s'il existait depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, aujourd'hui, il y a encore plus d'ampleur et d'importance.
Et faut-il se rappeler, Mario, que ceux qui créent l'importance de l'image, ce ne sont pas les adolescents, mais les adultes?
Voilà, mm-hmm. voilà. Donc, premier gros détachement, le corps.
Vous disiez, faut les comprendre de l'intérieur. Est-ce que pour nous aider à comprendre ça, on pourrait pas se rebrancher sur notre propre expérience de maladie, où on a l'impression que notre corps nous trahit, qu'il n'est pas le corps fiable avec lequel on a toujours fonctionné? Ça nous aiderait peut-être à les comprendre de l'intérieur.
Francine, je me permets une anecdote.
Oui.
Un jour, un prêtre, évidemment sorti de l'adolescence depuis quelques années, oh, je dirais 75 ans avancé, me dit ceci. Je travaillais à la paroisse avec lui. Il me dit, mon noir, il y a quelque chose de grave qui se passe. Alors moi, je me dis, il veut me parler de la société, il veut me parler de l'Église. Je dis, qu'est-ce qui se passe, l'abbé tel? Il dit, un matin, j'ai été obligé de m'asseoir pour attacher mes souliers. Je dis, oui, vous êtes fatigué, vous avez moins bien dormi? Il dit, non, je suis en train de prendre conscience qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Mon corps n'est plus celui qu'il était.
Ouais.
Alors là, il était en train de me dire, à cause d'un changement corporel, hein, des questions de sens de la vie, des questions de sens de la mort et tout, venaient de lui apparaître ce matin-là.
Ouais, sous un jour bien particulier, c'est ça.
Alors, quand on parle de l'importance du corps, qui n'est pas qu'un seul moyen de véhicule, mais qui est mon rapport à moi, mon rapport aux autres, mon rapport à Dieu, mon rapport à la vie, à l'environnement, tout ce que vous voulez, c'est majeur. Et je pense qu'on ne prend pas acte suffisamment de ce deuil-là, parce qu'il est question d'un deuil, autant pour l'abbé de 75 ans que pour les adolescents.
Oui, en pleine puberté.
Alors donc, c'est essentiel. Si on avait le temps, on pourrait se raconter des anecdotes puis voir tout ce qui est en jeu, mais il faut le prendre acte. Premier détachement essentiel, je peux pas en faire fuir, il me colle à la peau.
C'est pas pour rien que les sociétés africaines avaient ou ont encore des rites de passage
pour
apprivoiser ce nouveau corps.
Oui, oui.
Il y a une sagesse là.
Alors, deuxième détachement, le lien avec les parents. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est peut-être pas une évidence.
C'est facile à se dire ça ensemble, assis confortablement ce matin au micro. Mais quand on est en relation avec ces ados-là, il y a quelque chose qui se passe. On ne l'apprend pas dans des livres. C'est quelque chose de voir ces jeunes-là qu'on a aimés, qui ont été parfois des moules, parfois obéissants, parfois... Et tout à coup, on n'a rien fait. Il arrive des coupures, des réactions, des regards, des... Mais oui, qu'est-ce qu'il a mangé à matin, lui? C'est habituellement la nuit que les hormones font leur travail. Et là, un bon matin, on ne retrouve plus celui qu'on a laissé la veille. Le jeune doit inconsciemment couper le type de lien qu'il, dans sa tête, l'infantilisait. Il a besoin de couper ça pour pouvoir se regarder, lui, et devenir ce qu'il est. Arrêter de regarder le parent qui m'aime, qui me nourrissait. Il a encore besoin de lui pour le nourrir, on s'entend, là, mais... Et c'est une des craintes des adolescents de revenir en arrière. Et c'est mon travail, c'est de leur dire... Tu ne pourras plus entrer dans tes vieux habits, n'aie crainte.
Mm-hmm.
Ça, c'est rassurant pour lui, mais le parent, inconsciemment, il voudrait qu'il le retrouve. Je me souviens d'un évêque qui disait ceci. J'aimais ça, la confirmation en cinquième année, parce qu'ils étaient fins, ils étaient gentils, ils étaient. Mais maintenant qu'on met ça en sixième année ou secondaire 1, ils sont moins gentils. C'est intéressant, ça.
Ils sont moins obéissants.
Voilà. Voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je dois faire plus attention à ce que je dis, ce sont plus des bénis oui-oui, etc. Donc, le défi pour les parents, ce sera de dire ou de manifester à son enfant qu'il l'aime, mais de le dire et de le manifester autrement que de la façon qu'il avait l'habitude de le faire depuis sa naissance.
Ouais.
Alors, imaginons ça. Un ado à la maison, ça sonne à la porte, il y a un petit chum qui arrive, et l'ado doit quitter, la mère ou le père arrive devant l'ado, l'embrasse, puis il dit, ben, oh! Drame. Ouais. Épouvantable.
Mm-hmm.
Ben oui, mais j'ai toujours fait ça. On ne peut plus faire ça maintenant.
En tout cas, pas en public.
Surtout pas. Alors, il faut donc trouver, à quelque part à l'intérieur de soi, un chemin, une façon de dire, parce que le jeune a encore besoin de savoir qu'il est aimé, mais pas par le même chemin, mm-hmm. pas de la même façon. Donc, il y a un lien qui s'est brisé, un autre doit se trouver. Et c'est ça le défi des parents.
Ouais.
Alors, pour respecter le cheminement du jeune, qui doit briser ce lien-là, donc délier le lien parental, pour pouvoir, un jour, s'allier avec un conjoint ou une conjointe pour devenir en amour. Ça doit se briser, ça.
Mm-hmm.
Je le répète, c'est facile à dire ici, confortablement, mais quand ça joue, la game, là... c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'entre autres, on vient me voir en me disant « Aide-moi, je suis plus capable. »
Ah oui.
Donc, il y a une rupture,
ouais.
un deuil d'un type de lien, une façon d'être, d'entrer en relation avec, et on doit trouver une façon autre d'entrer en relation avec.
Ouais. Et peut-être que le jeune, il se sent aimé si on réussit à lui faire comprendre qu'on accepte qu'il y a... une certaine rupture à vivre, puis qu'on cherche, nous aussi,
oui.
c'est quoi les nouvelles modalités de,
oui.
de la relation.
Tout à fait. Et souvent, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que le parent, je l'aime encore, mais je dois rompre avec un type de lien. Et je me souviens, certains parents qui me disaient, mon ado veut partir là avec un colocataire ou je sais pas trop quoi. C'est l'enfer dans la maison. J'ai assez hâte qu'ils partent, on ne s'entend plus. Je dis, ben oui, mais pour réussir à partir, faut qu'il y ait une mésentente, sinon je resterai. C'est plus facile de quitter quelqu'un qu'on aime en disant que c'est des ci et c'est des ça et c'est des pas gentils et c'est des pas fins que de dire, je les quitte, mais je les aime donc puis j'étais bien avec. C'est bien trop difficile. Donc, je quitte ce que j'aime, mais pour m'aider à le quitter, je suis obligé de dire qu'ils sont pas cool. Hein?
Ouais.
On s'entend?
Oui.
OK.
Alors, il y a ce défi, donc, de la rupture, puis des nouvelles modalités de relations.
Que moi, j'appelle des détachements. Hein? Détachement avec mon corps, détachement d'un type de lien avec mes parents, ou les adultes qui tiennent ce rôle-là. Il y a un autre défi, évidemment, dans l'adolescence, c'est celui qu'on appelle le processus d'identification. C'est-à-dire... Je suis en train de travailler, je suis en train de m'approprier ce que je suis. Quand j'étais enfant, je remplissais mon sac de ce que mes parents voulaient bien y mettre. J'étais une éponge. Je me souviens, quand on travaille en paroisse, on s'arrache les cheveux, puis on dit, bon, est-ce que c'est la volonté du jeune ou la volonté du parent d'être là pour demander un sacrement ou un parcours catéchétique?
Oui.
Moi, je dis toujours, arrêtez. Les deux sont comme ça, en symbiose. On ne sait pas ce qui provient du parent, ce qui provient du jeune. C'est pas encore clair. Attendez, ça viendra bien assez vite. À l'adolescence, c'est le temps où je vide mon sac de ce que mes parents y ont mis. Je nettoie mon sac et je vais le remplir, mais cette fois-ci de ce que je veux bien y remplir. Processus d'identification, c'est ça. Mes choix.
Devenir soi-même.
Voilà. Mes choix, mes valeurs, mes goûts à moi, je ne porterai plus les vêtements que mes parents veulent que je porte. Donc, c'est l'âge où je veux prendre des décisions. C'est l'âge où je vais m'affirmer. Oh, ça, là, pour bien des adultes, parlons des parents, mais aussi des adultes qui interviennent, les jeunes ont le goût de lever la main, puis de s'exprimer, puis de s'extérioriser, puis de dire, ben moi, je suis pas d'accord, puis moi, je suis contre ci, puis moi... Je dis aux adultes qui les accompagnent, prenez-le pas personnel, ils sont en train de dire ce qu'ils sont. Et malheureusement pour vous, ils sont pas toujours habiles, c'est normal. Ils sont en train de l'apprendre, ça.
Mm-hmm. Donc, et même juste de s'entendre dire oui. leur propre opinion, ça leur permet de se faire une opinion.
Tout
souvent.
À fait,
oui.
tout à fait. Alors donc, le processus d'identification, il s'opère, je le répète, pas toujours de façon habile, puis comme dans les livres, ça marche pas de main. Mais pour ce faire, ils ont besoin des pairs, P-A-I-R-S. l'appartenance au groupe, la gang, elle est cruciale, OK? Et là, bien des parents vont dire, oui, mais je peux pas choisir la gang, je peux pas... Ben non.
Puis ils s'inquiètent des relations, puis c'est normal voilà. aussi.
Mais voilà, il y a un gros deuil à vivre.
Ouais.
Et un gros deuil aussi de dire, nous ne serons plus les confidents de notre jeune, ce sera maintenant ses chums. Il y a une distance qui est en train de se prendre, de s'opérer. Des fois, je dis aux parents, si le lien n'a pas été solide avant l'adolescence, je suis désolé, c'est pas l'adolescence qui risque de se bâtir.
Non, après, il faut attendre qu'ils soient
oui,
des adultes, et là, ça peut revenir autrement.
Tout à fait. Oui. Il faudra se trouver une façon de garder un petit lien, si ténu soit-il. Mais en tout cas, donc, deuxième défi, c'est ça. Le processus d'identification, et il est crucial. C'est, imaginez, là, c'est l'âge, c'est le moment où je ramasse tout plein de choses, puis je suis en train d'investir sur moi-même. On dit que c'est un âge où les jeunes sont égocentrés, narcissiques. Dans l'Église catholique, on n'aime pas ça, ces mots-là. Narcissique, égocentré. Mais je me dis, il faut être à quelque part, de 0 à 99 ans, il faut flirter avec Narcisse. Sinon, on se fait manger à laine sur le dos, on se fait démolir, on se fait détruire. Il faut l'avoir, ça. Mais dans l'Église catholique, on a souvent dit le contraire.
Mais...
Et moi, je dis non.
Puis quand t'es à te construire toi-même, il faut bien que tu réfléchisses sur toi-même puis
ben
que
oui.
tu t'occupes de toi-même.
Oui.
Comment faire autrement?
On met le spot sur soi.
Bien sûr.
Alors là, voilà.
Toutes les énergies à investir.
Oui. Mais ça, pour les gens qui entourent, ça peut être fatigant.
Des gens vont mettre une étiquette égoïsme,
non.
alors qu'il y a un égocentrisme nécessaire.
Sain.
C'est ça que vous dites.
C'est nécessaire.
Bien sûr.
Même si autour des adolescents, on va dire, oh, lui, c'est vrai, faut se le rappeler. T'sais? Mais c'est un processus d'identification, donc, qui est essentiel. Je le répète, un travail qui n'est pas simple, hein? Qui n'est pas simple.
Non.
Et vous l'avez peut-être déjà, je me permets un petit clin d'œil humoristique avec vous, vous avez peut-être déjà rencontré des adultes avancés en âge qui sont restés bloqués là.
Seigneur, oui. Ça,
d'accord.
c'est pas mal plus pénible qu'à 15 ans,
oui.
je dois dire.
Alors, vaut mieux donc permettre ce processus d'identification-là de se vivre au bon moment.
Bien sûr.
Puis après ça, être capable de l'altruisme, puis etc.
Ouais.
Mais ici, là, j'ai besoin de regarder ce qui je suis. Puis...
Ouais.
Et ça, faudra s'en rappeler quand on deviendra agent et agente de pastoral.
Oui.
Troisième, et je dirais dernier défi rapidement, c'est l'autonomie. Le jeune fait tout ça pour devenir autonome, un jour. Et dans ce processus-là, évidemment, il y a tendance à dire, c'est pas de l'autonomie, c'est de l'autarcie. Je veux pas aucune règle, je veux pas aucun règlement, je veux pas aucune autorité, je veux décider tout par moment. C'est pas de l'autonomie, c'est pas de la liberté, c'est de l'autarcie, ça. Hein?
Ouais, ouais.
Mais c'est ça. Pour devenir autonome, moi, je dis souvent, on part d'un extrême pour aller à l'autre.
C'est ça. Hein? Ça demande un tel effort
oui.
qu'il faut aller plus loin que nécessaire, finalement.
Oui, c'est bien dit, ça. Faut aller plus loin que j'aime ça. Plus loin que nécessaire. Alors, l'autonomie, c'est aussi à travers l'estime de soi qu'on va y arriver. J'en parle parce que, pour moi, un des premiers rôles de l'adulte qui accompagne l'ado, que ce soit le parent ou l'intervenant ou l'intervenante en pastoral, c'est de dire, je dois m'assurer que le regard que je vais poser sur le jeune va lui permettre de se dire, ah, je vaux quelque chose, je suis quelqu'un, parce que peut-être qu'à l'intérieur de lui, c'est plein de doutes, c'est plein de questions, c'est plein de trous, c'est plein de noirceurs, c'est à moi. Dans le regard, dans mon rapport à lui, dans mes propos, mais aussi dans le regard, de lui manifester qu'il est quelqu'un. Et après ça, si je veux lui dire qu'il est quelqu'un aux yeux de Dieu, ben là, la table est mise, c'est 1 plus 1 égale 2. Là. Si je suis pas capable de lui manifester ça dans mon propre regard, contact avec lui, ça sert à rien. Si j'essaie de lui faire croire que Dieu l'aime et qu'il est important, ça marchera pas.
Okay. En effet.
Donc, c'est rapide, mais trois défis essentiels, incontournables, qui auront des impacts sur tout adulte qui veut intervenir auprès des ados. C'est
ça.
Clair.
Vous écoutez Foi et Turbulence.
Je suis toujours en compagnie de Mario Mayou, Et nous parlons des adolescents. Mario, vous venez de nous faire un portrait qui me rappelle les adolescents des années 70. Il y a quelque chose de permanent, je pense, dans la puberté.
En effet.
Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion sur le rapport entre les jeunes et la foi, les jeunes et le religieux, la spiritualité?
Oui, je me permets un petit clin d'œil humoristique. Je ne voudrais pas scandaliser les personnes qui nous écoutent, mais quand j'étais enfant, on m'a appris que la foi pouvait transporter les montagnes.
Mm-hmm.
Ben aujourd'hui, pour les ados, là, c'est la souris
qui
transporte les montagnes.
C'est la souris.
Hein? Je ne sais pas si on peut prendre conscience de cette nouveauté-là. Le monde s'ouvre à nous. Le monde est à ma portée. Les jeunes ont été presque conçus dans l'univers Internet, aujourd'hui avec les médias sociaux. Donc, ça veut dire qu'ils ont accès à tout, ou presque, maintenant.
Oui, en deux, trois clics. Hein,
voilà.
Ouais.
Alors ça, c'est différent de nous, de notre enfance. Ça aura des répercussions, ça. Par exemple, pourquoi j'endurerais une catéchèse ou quelque chose d'ennuyant ici, si je peux avoir accès, par exemple, avec les médias sociaux, à un truc full, écœurant, intéressant, qui se passe en Nouvelle-Zélande. J'y ai accès. Ah oui. Ça veut dire aussi, j'ai accès à tout. J'ai accès à de la diversité. J'ai un buffet devant moi. Les choix que je vais faire, premièrement, ça va me demander comment je vais faire pour choisir. Hein? Moi, quand j'étais enfant, il y avait une voie royale. C'était ça ou rien.
Mm-hmm.
Mais maintenant, les jeunes ont accès à différents courants. Et je dis ça, j'aimerais ça qu'on ne jette pas de blâme. Pour eux, c'est le fun. Ils peuvent goûter à ceci, ils peuvent goûter à cela. Pour nous, on va dire, ben non, on fait pas ça. On connaît pas. Mais c'est l'âge où ils vont expérimenter. Alors, imaginez ce qui se passe hein, dans l'univers, je dirais, mental du jeune. Tout est accessible. Et là, va falloir, moi, que je l'accompagne dans un chemin qui va lui permettre de trouver du sens à sa vie.
Mm-hmm.
Excusez-moi, là, mais le défi n'est pas le même. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il y a au moins deux écoles de pensée, ici. Première école qui dit, à l'adolescence, là, c'est l'âge où ils se foutent de tout, ils coupent tous les ponts. Alors, ça sert à rien de rapporter la religion ou la foi, ils vont de toute façon s'en couper. C'est une école. C'est pas celle où je loge. Deuxième école qui dit, c'est à l'âge, on vient de le voir, où ils sont en train de mettre les balises sur ce qu'ils sont, sur leur façon d'entrer en relation avec les autres, avec l'environnement, avec Dieu, avec leur propre histoire. Ben là, si c'est pas là qu'on va leur permettre de chercher, de douter et de trouver du sens, je ne sais pas où on va le faire.
Mm-hmm.
À mon avis, on manque un rendez-vous important. Alors, c'est pour ça que je pense, moi, que la question du rapport entre les ados et, appelons ça pour l'instant, la quête de sens, elle est essentielle. Essentielle. Maintenant, comment cela se fera-t-il? J'entendais dans une conférence que je donnais dans une communauté religieuse masculine, je suis le directeur, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là, dans la structure, là, je suis pas très bon là-dedans. Le haut placé a osé dire devant ses confrères que lui, devant des adolescents, il sait pas quoi faire. Il sait pas comment s'habiller. De toute façon, il me dit, j'ai toujours mon col à main. Bon, ben, je dis, vous savez comment vous habiller? Il y en a quelques-uns dans la salle qui ont levé les yeux en l'air en voulant dire, peut-être que s'ils changeaient de costume, ça aiderait, mais bon. Il sait pas comment s'habiller, il sait pas comment leur adresser la parole, il sait pas, il est inconfortable, puis il est allé jusqu'à dire qu'il en avait peur. Ben, j'ai dit, écoutez, je voudrais saluer votre lucidité, votre honnêteté, c'était pas évident d'oser dire la chose. Et je lui dis, ça pourrait peut-être que le jeune ait aussi peur de vous que vous avez peur de lui.
Mm-hmm. Hein?
Il y a deux mondes, là, qui se regardent un petit peu de loin en disant que c'est ça. Il y a un constat, là, on pourrait en rire tous les deux, on s'entend bien, les deux ont peur, un de l'autre.
Oui, il y a un malaise profond.
Tout à fait.
Mais connecté sur notre propre malaise, c'est se rendre capable d'accueillir le malaise du jeune, au fond.
Et moi, je dis,
ben oui.
Il y en a un des deux qui est au service de l'autre.
En effet.
Alors, il y en a un des deux qui, à mon avis, d'abord, il devrait ou bien aller voir un coach ou de se faire aider. Hein? Comment je vais faire pour m'approcher de l'autre sans partir en courant? OK, je n'ai plus ces mots. Ben, il faudrait peut-être que je l'écoute. Avant de lui dire mes mots à moi, M-O-T-S, avant que ça devienne des mots M-A-U-X, il faudrait peut-être que je prenne mon courage à deux mains, puis je dis, je vais me taire, hein? Puis je vais dire, comment il parle? De quoi il parle? C'est quoi qui est important pour lui aujourd'hui? Je le sais pas. Je suis déconnecté. Ben là, avant de lui parler de Jésus, de Dieu et de l'Église, il faudrait peut-être que j'apprenne à connaître celui à qui je veux m'adresser. Mm-hmm. Hein? J'ai déjà entendu dire que pour apprendre les mathématiques à Jean, il fallait que j'apprenne à connaître Jean. Ben là, le supérieur de la communauté religieuse me disait à moi et à tout le groupe, ne me laissez pas loose devant des adolescents, je saurais pas quoi leur dire. Alors je lui dis, première chose à faire, promenez-vous et écoutez. Lisez ce qu'ils disent, écoutez ce qu'ils disent. Écoutez le malheur, leur malheur. Quand un jeune décide de suicider, là, il me dit quelque chose de lui et d'elle de très grand et de très grave.
Oui.
Il me dit quelque chose de la société dans laquelle on vit.
Il me dit quelque chose de tous les adolescents.
Voilà. Oui. Voilà. Donc, la quête de sens de dont on parle, là, Francine, c'est une question grave aujourd'hui, en 2012, là. On ne peut plus passer à côté de ça en disant, ben, je sais pas trop comment m'y prendre, donc d'autres y verront. Je vais prier pour eux. Ils prient pas, donc je m'attarderai pas à eux. Mmh. Écoutez, là, on est ici pour se dire des choses graves. Question de quête de sens, là, c'est de ça dont il s'agit ce matin.
Et c'est certainement plus pénible à vivre aujourd'hui dans une société éclatée où il n'y a pas d'unanimité, justement, sur le sens de la vie que lorsque moi, j'avais 15 ans et que...
Ben, éclaté, je le sais pas. Mais où, en tout cas, il y a une diversité de sens qui s'offre à moi. J'aime mieux ça. Effectivement, le travail est plus difficile. Donc, les hommes et les femmes qui ont à intervenir sur le terrain de la quête de sens, à mon avis, doivent enlever leurs chaussures parce que le terrain sur lequel ils vont s'aventurer, c'est une terre sainte. Il peut être miné. Hein, parce qu'on sait que les adolescents peuvent être
explosés.
Voilà, explosifs. Mais, alors, j'enlève mes chaussures, je me tais pour d'abord écouter ce qu'ils ont à me dire, pour savoir par quel moyen, créneau, brèche, je vais m'y prendre. Et j'aurais le goût, si vous me permettez, de lire un extrait, c'est un texte qui est anonyme et qui s'intitule « Peux-tu simplement m'écouter ?»
Allez-y.
Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me donner des conseils, tu n'as pas fait ce que je te demande. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me dire pourquoi je ne devrais pas ressentir ceci ou cela, non seulement tu n'as pas fait ce que je te demande, mais tu bafoues mes sentiments. Quand je te demande de m'écouter et que tu sens que tu dois faire quelque chose pour résoudre mon problème, là encore, tu n'as pas fait ce que je te demande. Tu m'as fait défaut, aussi étrange que cela puisse paraître. Écoute, tout ce que je te demande, là, c'est que tu m'écoutes. Non que tu parles ou que tu fasses quelque chose. Je te demande uniquement de m'écouter. Quand tu fais quelque chose pour moi que je peux et que j'ai besoin de faire par moi-même, tu contribues à ma peur. Tu accentues mon inadéquation. Mais quand tu acceptes comme un simple fait que je ressens ce que je ressens, je peux arrêter de te convaincre et je peux essayer de commencer à comprendre ce qu'il y a derrière mes sentiments, même irrationnels. Les sentiments irrationnels deviennent intelligibles quand nous comprenons ce qu'il y a derrière. Et peut-être, est-ce pour cela que la prière marche parfois pour quelques personnes, car Dieu, il est muet. Il ou elle ne donne pas de conseils. Il ou elle n'essaie pas d'arranger les choses. Il ou elle écoute simplement et te laisse résoudre le problème par toi-même. Alors, s'il te plaît, écoute et entends-moi. Et si tu veux me parler, attends juste un instant et je t'écouterai.
C'est un très beau texte, Mario. Anonyme,
oui.
En tout cas, reflète bien le besoin des ados.
Oui, il reflète bien le besoin des ados et il reflète bien aussi l'intervention qui doit être la mienne. Quand je veux m'approcher, je veux me faire proche d'un adolescent en quête de sens, l'écouter. Avant même de lui proposer mes trucs que je crois bons pour lui ou bons pour elle, alors que je n'en sais rien, je sais que ça a été bon pour moi, mais je ne sais pas si ce sera bon pour lui ou bon pour elle, c'est de l'écouter. Et pour ça, ça m'amène à aller sur un terrain un petit peu frustrant parce que je n'aurai pas le temps de le développer davantage, c'est les distinctions à faire. Plusieurs intervenants et intervenantes qui veulent travailler auprès d'adolescents le font sur le terrain de leur confort, dans sa zone de confort, qui est la religion. On connaît ça, on apprend ça, on aime ça, etc. La religion, c'est une organisation qui est bien fondée, qui nous aide, qui nous permet d'avoir accès à une transcendance où les chemins sont déjà balisés pour nous. Il y a des rites, il y a des prières, il y a des façons d'entrer en relation avec l'autre, il y a une Bible pour connaître. Donc, c'est gentil, on nous offre tout ça pour ne pas, en se levant le matin, à chaque fois qu'on est à tout réinventer la roue.
Mm-hmm.
Sauf, parfois, on se fait jouer des tours. On va sacraliser le chemin qui mène vers cette transcendance-là. On va regarder le doigt plutôt que regarder la lune. Le jeune, l'adolescent, se trouve à l'étroit dans ces propositions-là qui deviennent des carcans ou étouffantes. Et ça, bien des adultes aussi.
En effet.
Alors, l'adolescent a besoin d'expérimenter des chemins qui mènent à cette transcendance-là.
Mm-hmm. Et qui ne sont pas nécessairement les chemins que nous connaissons ou qui sont balisés par l'institution.
Et qui sont probablement des chemins que nous n'aimons pas pour nous, mais qui pour eux, à ce moment-ci de leur vie, sont essentiels et goûtent bon. Alors quand je dis, moi, aux adultes que je forme ou que j'accompagne, je leur dis, non, si l'adolescent et vous, vous vous retrouvez sur le même chemin, il y en a un qui est problème.
Qui n'est pas à sa place.
Qui n'est pas à sa place.
Donc, connaître son propre chemin, puis savoir que ce n'est pas celui-là qu'il faut pour le jeune.
Voilà.
Ouais.
Et que le chemin que le jeune emprunte, ce n'est pas celui qui est le nôtre.
Ce n'est pas le mien, c'est ça.
Mais ça, c'est clair. Je ne veux pas aller sur ton chemin. Je ne veux pas t'inviter sur le mien. Je respecte là où tu es et tu respectes là où je suis.
C'est ça. Puis si je peux t'aider sur ton chemin ou même à le trouver.
Ben voilà.
OK.
Alors, ça évite que l'adulte veuille devenir comme l'ado.
Mm-hmm.
Ah, parce qu'il y a eu une vogue à un moment donné, on voulait parler comme l'ado, on voulait s'habiller comme l'ado, on voulait... Non. Laissons l'ado être ado, puis nous jouons notre rôle d'adulte. Hein? Donc, on ne pourra pas aller plus loin, mais dire le chemin de la religion n'est probablement pas le meilleur. Faut donc faire un deuil, nous.
Oui.
Hein? Que de voir plein d'ados dans nos trucs religieux, là, ça fait image. On aimerait ça, avoir une belle photographie avec des ados dans nos affaires. On pourrait dire, waouh, ça marche, je l'ai, je pogne, excusez l'expression, mais auprès des jeunes. Ben là, si on fait ça, c'est notre image à nous qu'on veut flatter. On veut travailler à la survie de notre institution alors qu'on est là pour travailler à la survie du devenir des adolescents. On se trompe, là.
Mm-hmm.
Alors, je répète, on est là au service des ados et de leur devenir, et non pas de notre survie de l'institution.
C'est tellement important, Mario. Puis je suis absolument 100%
d'accord. J'ai l'air choqué, mais je suis convaincu.
Je me suis déjà choqué comme ça, moi aussi, en réunion d'agents pastorales, Mario, pour la même raison. Ça veut dire, donc, au fond, ne pas décider à l'avance les modalités de leur rapport à Dieu. Parce que c'est bien de ça que vous nous parlez.
Oui. Et plus on permettra à ces jeunes-là d'entrer en relation avec ce qu'on appelle dans notre jargon à nous des témoins, donc des chemins différents, il y en a qui ne nous nourrissent pas, mais eux, tout à coup, vont dire « Ah, waouh! » Ils ont besoin d'en avoir plein. Puis après ça, ils feront leur propre choix. Ils pourront développer leur spiritualité, ils pourront développer leur chemin, je le répète, il n'y a pas d'autres mots, qui seront dans lesquels « Ah, je me retrouve ici, ça fait du sens pour moi et j'ai le goût d'investir dans ce chemin-là. » Et c'est comme ça qu'on va les rejoindre et les accrocher.
Oui.
Donc, il y a une, J'ai dit un deuil, il y a une démaîtrise ici. Ça, c'est dur. Moi, j'ai été nommé agent et agente de pastoral parce qu'on reconnaît que j'ai une belle foi, que j'ai une belle formation, puis que, bon, je suis patenté, hein, je dois savoir. Et là, je me retrouve devant des adolescents, puis Mayou me dit, là, que non, je dois vivre la démaîtrise, j'ai un deuil à... Ce n'est pas évident, ça, Francine.
En effet. Puis le pire, c'est l'agente de pastorale dont les adolescents décident qu'ils vont plus à la messe. Moi, j'en ai connu, hein. Et quelle sérénité ça demandait à ces femmes de dire, ben c'est ça, mon chemin, c'est mon chemin, et le sien, c'est le sien.
Oui.
Et j'admirais ça. Mais les paroissiens se disaient, ça doit pas être une bonne agente de pastorale parce que son garçon va pas à l'église. Mais c'est un temps, l'adolescence. Ça dit rien de ce qui va être adulte, hein.
Et les marguilliers vont dire, ce n'est pas une bonne agente de pastorale. Elle ramène pas les jeunes à l'église.
Voilà.
Ah, c'est de ça dont on se parle.
Ça va être le critère pour les évaluer. Quelle horreur.
Ça n'en est pas un.
Ça n'en est pas un.
Alors là, tranquillement, on s'amène sur ce qu'il faut si je veux travailler avec et auprès des adolescents.
Nous entendrons le groupe québécois Harmonium, qui rappellera probablement des souvenirs à plusieurs d'entre vous.
Où est allé tout ce monde? Il y avait quelque chose à raconter. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Linda, tu peux plus fort. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Linda, nana, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Linda, où est allé tout ce monde?
Alors, Mario Mayou, à propos des adolescents et de la foi, de la spiritualité, je vois bien que, à cause du peu de temps qu'on a, vous restez sur votre appétit. Vous aimeriez ajouter, je suis certaine que les auditeurs aussi apprécieraient.
Oui. Vous savez, je préfère qu'on demeure sur notre appétit à l'inverse, hein.
Oui.
Mais, on doit se dire quelque chose qui n'est pas agréable, mais au sujet de la foi. J'espère ne pas scandaliser personne, mais on a un effort à faire ici au niveau de la formulation de la foi pour aujourd'hui. Je m'explique. À moins que je me trompe, mais quand je lis la Bible et que je me sens en parallèle avec un petit peu d'histoire et ce que les sociologues aussi peuvent nous apprendre, la foi a été formulée dans un contexte qui n'est pas le nôtre. On était dans un contexte de pauvreté. Je dis pas que les gens étaient pas intelligents, là, mais de pauvreté, de moyens, pauvreté matérielle. Bon, quand on est dans un contexte de postmodernité, en tout cas que le nôtre, qui est le nôtre, où on a accès à tout, où il y a encore de la pauvreté, j'en conviens, mais les moyens technologiques sont là. La science, écoutez, nous a fait faire des pas de géant.
Ouais. Et un idéal social d'abondance et de richesse,
oui.
Même pour les
oui.
Pauvres.
Oui. Je ne peux plus présenter Dieu. Je ne peux plus parler de la foi comme autrefois. On dit même que des peuples, des sociétés, des pays émergents, où Dieu est encore très présent, la journée où ils auront
atteint un PNB équivalent au nôtre.
Vous connaissez la reste de la phrase.
Ouais.
Dieu sera peut-être mis un petit peu de côté.
Ouais.
Alors moi, je dis, c'est pas juste une question de foi, mais il y a aussi une façon de dire, j'entends dire parfois que pour parler de Dieu et de l'Église et de l'Évangile, il faut que ça soit rimé au mot pauvreté. Oui et non. C'est comme de dire aux riches, aux personnes bien nanties ou qui ont réussi dans la vie, vendez ce que vous avez, parce que pour vivre de l'Évangile, il faut que vous soyez pauvres. Donc, on accepte votre argent à la condition que ça nous serve. Moi, je dis, il y a une façon de dire Dieu quand on est en santé riche debout, pas juste quand on est pauvre, triste, puis qu'on s'en swing. Je veux dire, il y a quelque chose là qu'on a à découvrir et à développer qui n'est pas fait. On va-tu y parvenir un jour? Alors, les adolescents arrivent là-dedans, dans un univers où tout est là pour eux. L'abondance, les technologies, ils ont soif de découvrir. Et on va leur proposer un Dieu qui, à mon avis, est véhiculé par une foi qui n'est pas propre au contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Ça ne marche pas. Excusez mon cri, là, mais ça ne marche pas.
Ben, c'est bien de pas avoir la langue de bois, Mario. J'apprécie.
Merci.
Écoute, de toute façon, Vatican II en était déjà conscient qu'il fallait faire une mise à jour, puis on est loin de l'avoir terminée. C'est mentionné ici à presque chaque émission, quel que soit le sujet abordé. Donc,
on peut perdre conscience de temps en temps. Hein? Mm. Alors, Vatican II en était conscient, mais là...
Oui, oui, on a encore pas mal de chemin.
Oui, ça nous donne du travail.
C'est bien.
Hein? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, que quand je dis que pour aborder le chemin de la foi ou de la spiritualité avec les ados, il y a au moins trois données, entre guillemets, à considérer. Les ados, d'une part, qu'est-ce qu'on met sous le mot foi ou quel est le chemin le plus approprié?
Ouais.
J'ai osé dire spiritualité.
Et même ce qu'on met sous le mot Dieu.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et la troisième donnée à considérer, incontournable, c'est l'adulte. L'adolescent ne devient pas ado ou adulte tout seul. Ben en fait, oui, il est tout seul à faire le travail. Je suis tout seul à naître, mais il y a des hommes et des femmes qui y ont vu. Alors je ne deviens donc pas ado tout seul. Et il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des mots qui peuvent freiner des ados, comme il y en a d'autres qui peuvent leur permettre de galoper, de s'ouvrir et de devenir ce qu'ils sont. Hein? Depuis qu'on se parle, en fait c'est surtout moi qui parle, depuis qu'on est ensemble ce matin, j'en ai énuméré quelques-unes de ces attitudes et quelques-uns de ces comportements-là.
Dont l'écoute.
Dont l'écoute. Aussi d'être capable de se situer soi-même là où on est. Je n'ai pas, pour plaire à l'ado, à l'imiter. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Les ados développent une façon de communiquer qui leur est propre. Ben nous, les adultes, pour s'en approcher, on l'apprend. Ben là, ils vont devoir en développer une autre parce qu'ils veulent se distinguer.
Ah,
on n'a pas compris.
Mm-hmm.
Hein? Alors, donc, j'ai besoin de savoir où je me situe. Vous savez, je me permets à la blague... Les adultes, on souffre un petit peu d'amnésie. Hein? On a oublié qui on était. On a oublié les moules qu'on a eu besoin de briser. Mais là, maintenant qu'on est de l'autre côté, on s'imagine qu'il faudrait que ce soit tout cool. Et puis, non, ça marche pas comme ça. Donc, ces ados-là ont besoin d'avoir des adultes qui se tiennent. Pas du mou, excusez, là, mais
ouais.
Le manger mou, ça sera plus tard, là. Mais pour l'instant, ils ont besoin d'avoir des adultes qui se tiennent. Ça va sembler paradoxal, mais ça ne l'est pas. Qui vont permettre aux jeunes de rêver. Parce qu'ils ont une nouvelle disquette, maintenant, à l'adolescence, qui leur permet de réinventer. Et je me dis, mon Dieu, que l'Église a besoin de ça. Hein? Nous, les cadres qui sont croches, on ne les voit plus, mais eux, ils les voient, ils sont très sensibles à ça. Alors, on a besoin, donc, d'avoir des rêveurs, puis eux, ils ont besoin d'adultes qui leur permettent de rêver, puis de dire, c'est incohérent telle chose, c'est pas juste, ils l'ont, le flair pour ça. Donc, leur permettre de rêver. Mais en même temps, si on ne leur permet que de rêver, c'est la pensée magique qui s'installe, alors il faut aussi dire, concrètement, descend sur terre maintenant, comment on pourrait s'y prendre? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, voyez-vous,
mm-hmm.
De rencontrer ces adultes-là qui disent, mon Dieu, sont-tu à jeun? J'aurais jamais pensé ça. Mais oui, c'est en ébullition, c'est l'effervescence de la création. Ils sont co-créateurs. Ils le prennent au sérieux, ce rôle-là. Ben, je me dis, tendons-leur la main, puis je dis, ben, viens voir avec moi.
Mm-hmm.
Mais en même temps, dire, OK, la persévérance, c'est pas leur fort. On va regarder avec eux par quoi on doit passer, comment on fait ça, un projet de vie, comment... Donc, réalistement, rêver, éveiller. Donc, ils ont besoin de ça. Est-ce que j'ai ce qu'il faut, moi, pour leur donner assez de cordes, mais pas pour se pendre, pour galoper, pour s'éloigner de moi, de ce que je suis, de ce que je pense, mais en même temps, disant, garde, on peut pas faire ça n'importe comment. Ouais. Il y a des règles, il y a des façons de fonctionner. Ça marche pas. Goody, tu vas te faire mal. Je voudrais pas que tu te fasses mal, mais tu as besoin de mettre ton doigt ou ton... Vas-y, mais je suis pas loin si tu as besoin d'aide. Mm-hmm.
Okay. Et ça peut pas être tout et tout de suite.
Non.
Mais faut quand même rêver
oui.
à tout.
Est-ce que je suis quelqu'un, moi, qui inspire cette confiance-là
ouais.
en disant « Vas-y, je serai pas loin ».
Tu sais, Mario, c'est pas pour rien qu'il y a une majorité de jeunes dans le mouvement des indignés. Hein? Il y a beaucoup d'adultes qui sont d'accord avec ça depuis
oui.
des années,
oui.
mais c'est des jeunes que ça choque assez
oui.
pour dire « On fait quelque chose ».
Tout à fait.
Et il faut qu'ils puissent peut-être rêver que ça va changer.
oui.
Puis j'espère bien que ça va changer.
Oui, oui. moi aussi. Et en même temps, ils ont besoin, ces ados-là, de voir des hommes, des femmes, qui leur disent « Qu'est-ce qui m'aide à me lever chaque matin et à me tenir debout envers et contre tout? » Parce que sinon, dès la moindre petite déception, je tire la plug? Non. On le voit.
Oui.
Alors, ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui s'émerveillent encore, qui rêvent encore, qui aiment, mais qui sont aussi aux prises avec des déceptions. La vie est faite de blanc, de noir, de gris, de faille, mais c'est à travers la faille que la lumière advient. Hein? C'est beau, ça.
Leonard Cohen.
Voilà! Oui, ça sonne une belle chanson, ça. Mais les jeunes ont donc besoin de ça. Parce que sinon, il va leur manquer, pour devenir un adulte, vous savez, je le dis comme ça, mais si on donne trop tout aux jeunes, dès qu'ils n'auront pas ce qu'ils cherchent, ils vont s'effondrer. Alors, donc, je reviens là-dessus, trouver des adultes qui sont capables de dire leur espoir, leur espérance, leur amour de la vie, malgré tout le reste. Et ça, moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer, je m'en souviens. Autant dans ma famille que dans mes éducateurs. Ceux-là, quel souvenir mémorable j'en garde. Et parfois, il m'arrive de me dire, est-ce que j'en serai un de ceux-là? Je le sais probablement pas. Je le saurai probablement jamais. Mais ça fait partie, c'est prétentieux de ma part, mais de vous dire, j'aimerais ça avoir été là pour quelqu'un. C'est le rêve que je fais éveiller. C'est le souhait que je me fais et que je fais à vos auditeurs et à vos auditrices.
Mario Mayou, c'est un regard à la fois réaliste et pourtant inspirant et positif que vous portez sur les jeunes et sur nous, auprès des jeunes. Un immense merci, Mario.
Je vous en prie.
Ring the bell that's still to ring. Forget your perfect offering. A crack in everything. That's how the light gets in.
C'était un tout petit bout de la chanson de Leonard Cohen dont Mario et moi avons parlé en fin d'entrevue, et vous l'entendrez au complet à la fin de cette émission. Grand merci à Mario Mayou d'avoir partagé avec nous sa connaissance et son expérience des adolescents. Merci aussi à Hélène et à Nathalie pour leur soutien technique et à Louis Lesage qui coordonne toute cette série Foi et Turbulence. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Sabrina Di Matteo du Centre universitaire étudiant Benoît Lacroix vous présentera divers dossiers concernant les jeunes adultes et la société. Je vous informe que certaines des émissions de l'automne dernier ainsi que de l'hiver 2011 sont maintenant disponibles sur le site Internet de l'Institut de pastoral des Dominicains. L'adresse est www.ipastorale.ca. Au microphone, c'est Francine Robert. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Ville-Marie. Au revoir.
The birds, they sing at the break of day.
start again. I heard them say, don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. For signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs for all to see. Can't run no more with that lawless crowd. While the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. That still could ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Strike up the march. There is no drone. Every heart to love will come. But like a refugee, ring the bells that still.
That's how the light gets in.